Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Le sport barbare, critique d'un fléau mondial, c'est le titre du livre de notre invité cette semaine, Marc Perelman. Nous prenons les fans de sport, de football à contre-pied aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique, destination la RDC et la Guinée notamment. Rendez-vous également avec vos messages. Mais tout de suite, quelques mots sur l'actualité en France, marquée entre autres par une grève à la SNCF contre le projet de réorganisation de l'entreprise. Les cheminots redoutent une modification de leur statut avec cette réorganisation. Reportage jeudi de Clémence Denavy.
Pas de course effrénée, de mouvement de colère ce matin, plutôt des passagers les yeux rivés sur les panneaux d'affichage ou sur leur écran de téléphone.
On s'est renseigné, on a dû changer le train prévu pour prendre celui qui était maintenu.
J'ai eu 2 mails ce matin, il était annulé, mais là on m'a confirmé que je l'avais en fin de compte.
Ça va, ça a été. Il a fallu changer. Partir plus tôt, rentrer plus tôt. Juste ça.
Nicolas a troqué son bureau pour un quai de gare, il est volontaire, gilet rouge, l'un de ceux qui aident les passagers dans cette galère.
Là, très concrètement, l'information dont ils ont besoin, c'est savoir quel est le train qui les emmènera au boulot et le train qui les ramènera à la maison le soir.
Je vous vois consulter les panneaux et votre site internet en même temps.
C'est pour ce soir, c'est pour un retour en province ce soir, donc faut bien s'y faire. Apparemment, c'est pour défendre un service de qualité. La prochaine fois, je ferai une grève du zèle, c'est-à-dire qu'on demandera mon ticket, ben, je dirai je ferai grève et puis je le montrerai quand même, mais au moins je montrerai mon mécontentement. Mais bon, peut-être que si on était à leur place, on ferait la même chose.
Et parmi le flot des passagers, on en croise de plus en plus nombreux qui ont appris à être philosophes, comme Claude.
Oui, ah bah oui, là je vais à l'aventure. Hein. J'ai dit, je vais quand même tenter d'aller là, puis je ne vois rien qui va dans ma direction.
Bon, mais j'espère que la grève sera terminée pour le retour. Bon, même si c'est que dimanche, ça sera que dimanche.
Sept jours en France.
Une actualité française marquée aussi par des dissensions au sein de la famille Le Pen après des propos de Jean-Marie Le Pen que voici.
Monsieur Noël a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie.
Et Monsieur Bruel aussi.
Ah oui, oh, ah oui, ça m'étonne pas.
Oui, voilà.
Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois.
Conséquence de ce nouveau dérapage verbal, la fille Marine a désavoué le père Jean-Marie, Florent Guignard.
Ce n'est pas le jeu de mots antisémite qui a dérangé Marine Le Pen, mais bien le fait que son père l'a fait publiquement la dernière sortie de Jean-Marie Le Pen, parasite. En effet, les tractations compliquées du Front National en quête de respectabilité pour constituer un groupe politique au Parlement européen. Mais en se posant en adversaire de la pensée unique, Jean-Marie Le Pen alimente bien le fonds de commerce du FN. C'est un parti anti-système et c'est aussi pour ça que tant d'électeurs ont voté pour lui aux européennes. L'ampleur de la polémique depuis ce week-end conforte cette idée-là. On a même entendu ce matin un balai de ministres réclamer l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du FN. Un positionnement étrange puisqu'il consiste à valider la dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen. Les relations père-fille ont toujours été compliquées. Jean-Marie Le Pen rappelle d'ailleurs qu'il est président d'honneur du Front National à vie. Le FN, c'est lui, c'est sa chose, sa création qui lui échappe peu à peu depuis que sa fille a pris la relève. Le vieux dirigeant n'aime pas ça et il le fait savoir.
Une semaine d'actualité, donc nous continuons à parler de sport, du football. Les Français sont tout autant que les autres peuples intéressés par le football, en tout cas une grande partie de ce peuple. Hein, je vous vois faire une grimace. C'est un événement mondial que vous analysez dans plus globalement ce phénomène sportif, dans ce critique d'un fléau mondial. Et vous dites, on a commencé à parler des grandes lignes de votre analyse, vous dites aussi, Marc Perelman, dans ce livre, que le sport a tendance à légitimer l'ordre établi. On le voit d'ailleurs un peu au Brésil aujourd'hui.
Tout à fait.
Là, on rappelle les propos de Michel Platini qui demandait, après il a regretté ses propos, mais qui demandait aux Brésiliens en fait d'arrêter de manifester, de se plaindre et qu'ils avaient la chance d'avoir la Coupe du Monde.
Tout à fait, il leur a dit calmez-vous, oui. Si je me souviens bien les termes exacts. Rien ne doit déranger l'ordre du football, hein, qui impose d'ailleurs un ordre qui est le sien, oui. Qui est celui du rythme de la compétition. qui n'est plus d'ailleurs véritablement le rythme de la vie quotidienne, mais qui se veut un autre rythme, hein, celui donc des compétitions entre les équipes,
des résultats. De plus en plus de compétitions d'ailleurs.
Voilà, les résultats, etc., etc. Donc c'est vrai que ce que vous dites est juste, hein, le rythme même des compétitions à travers le monde s'est accéléré, le nombre de compétitions a augmenté, vous avez des compétitions en fait maintenant tous les jours, pratiquement jour et nuit. Tout simplement. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, il y a un vrai ordre sportif qui s'installe progressivement sur la planète et qui, oui, devient une espèce d'ordre, c'est vrai, dominant, d'une certaine façon.
Et donc, il y a le rapport politique-football. Là, vous voyez, j'ai le journal L'Équipe d'hier, vendredi, il y a 2 pages de publicité pour le Cameroun avec une belle photo du président Paul Biya.
Alors l'ordre qu'impose le football, c'est non seulement l'ordre du football, mais c'est aussi l'ordre de celui évidemment qu'il met en œuvre, hein, et donc principalement les grandes organisations, encore une fois sportives, le CIO et la FIFA, hein, qui ne sont véritablement pas des organisations démocratiques, hein, ce sont de véritables petites organisations avec un nombre d'ailleurs relativement peu important d'individus. Sachez par exemple qu'à la FIFA, ce sont 25 hommes, il n'y a pas une femme, qui composent le comité exécutif international et qui décident pour des millions d'individus, mais qui sont
trop de transparence.
Voilà.
Ouais. Et d'ailleurs, on voit
dans l'opacité complète. Et il en est de même pour le CIO, hein, où vous ne savez rien des discussions, vous ne savez rien d'ailleurs des enjeux financiers, mais vous apprenez de temps en temps, voilà, qu'il y a eu prévarication, concussion et autres, et on exclut de temps en temps, voilà, quelques individus comme des boucs émissaires en quelque sorte. Mais le fond reste le même. Mais ça veut dire, si vous voulez, de ce point de vue-là, que en gros, ces grandes structures, hein, ces grandes structures là, eh bien, imposent, c'est vrai, un ordre particulier. Celui du sport en général, ça peut être le football ou l'athlétisme, peu importe. Et à cet ordre-là, sont obligés d'adhérer les pays, en quelque sorte, qui accueillent, hein, tout simplement les compétitions. Et on le voit, par exemple, avec le Brésil aujourd'hui, en particulier dans quelque chose que j'ai analysé et qui est tout à fait inouï, hein, du point de vue de la souveraineté, vous voyez, d'un pays, qui s'appelle la Lei Geral da Copa, la loi générale de la Coupe, qui a été dictée par la FIFA au gouvernement brésilien, qui l'a entérinée d'ailleurs après de nombreux débats au Parlement, mais qui a fini par l'entériner et qui est vraiment une levée de la souveraineté même du Brésil, hein, où là, la FIFA impose un certain nombre de normes, son ordre en quelque sorte, hein, pour ce qui concerne les villes hôtes, eh bien, quand les villes accueillent l'équipe du Brésil, eh bien les gens ne vont pas travailler, ils ont l'obligation d'assister en quelque sorte au match. Il y a aussi l'obligation pour les gens qui habitent près des stades d'avoir un laissez-passer, hein, qui sont accrédités évidemment par la FIFA. La FIFA a obligé le gouvernement brésilien à imposer, alors que c'est contraire à la loi brésilienne, imposer à nouveau l'alcool dans les stades. Alors que la loi brésilienne l'interdit, hein, tout simplement parce que la FIFA a un accord de partenariat avec Budweiser, hein, qui est une bière, et donc dans les stades, eh bien, on boira, etc., etc. Jusqu'à des choses.
Pas question pour le vendeur de la sauvette de s'installer à côté des stades, puisqu'on sait très bien que ce sont les sponsors qui.
Exactement. Qui dans un rayon de 2 kilomètres. Autour du stade, hein, des 12 stades, eh bien, il est interdit aux 300 000 petits vendeurs, tout simplement, voilà, de vendre des boissons et autres, parce que, tout simplement, c'est territoire de la FIFA. À telle enseigne, d'ailleurs, que les favelas qui se trouvaient trop proches de certains stades ont été tout simplement nettoyés sur ordre, hein, de la FIFA, entérinés par le gouvernement de gauche, semble-t-il, brésilien.
Donc le choix des stades d'ailleurs est aussi significatif. Pourquoi tel stade plutôt qu'un autre? Je rappelle que vous suivez avec beaucoup d'attention l'architecture. Vous êtes l'esthétique est votre domaine, l'art est votre domaine. Vous avez de longues pages, de longs chapitres sur le stade, qui n'est manifestement pas un édifice comme un autre.
Tout à fait. J'ai même écrit un livre qui s'appelle L'ère des stades, L'E accent grave RE, que j'aurais pu écrire d'ailleurs AIR, hein, ou AIRE.
L'ère des stades, genèse et structure d'un espace historique.
Exactement. Voilà. Parce que le stade me semble être aujourd'hui l'édifice le plus intéressant du point de vue de la concentration des individus, hein, du point de vue de ce qu'un espace construit par des individus, par des hommes, par des architectes, eh bien, symbolise en quelque sorte. Et je vois dans le stade, c'est vrai, un lieu particulièrement inquiétant, vous l'aurez compris, oui. Parce que c'est le lieu évidemment idéal de la pratique sportive, de la pratique de la compétition. Mais voilà, ce n'est pas simplement qu'un lieu d'accueil. C'est pas simplement, vous voyez, un lieu comme ça, innocent, naïf, où il y aurait de la joie, etc. Derrière le stade, ou dans le stade, je vois quelque chose de beaucoup plus profond, qui est, c'est vrai, une espèce de mise en forme d'une masse d'individus assis côte à côte, et qui forme comme une espèce, vous voyez, de corps unique, rythmé d'ailleurs par la compétition elle-même. Quand il y a des buts, quand il y a des pénaltys, quand il y a des événements particuliers, on voit cette masse tout d'un coup se dresser, faire des holas, et donc il y a une espèce, vous voyez, de...
Il y a un public qui est conditionné dès son arrivée dans le stade, d'ailleurs, avec de la musique et pas n'importe quelle musique.
Tout à fait. Le stade est un lieu tout à fait étonnant, parce que c'est à la fois un lieu de grande visibilité, il s'agit de voir, évidemment, mais aussi un espace sonore. Et le stade est donc un lieu, si vous voulez, d'articulation du visible et du sonore. Et il y a quelque chose là de tout à fait étonnant, comment, en quelque sorte, la masse des gens qui sont là s'écoute à travers l'écho, évidemment. Et donc les stades sont aujourd'hui de vrais appareils technologiques, de haute technologie, à la fois visuelle et sonore, parce que là, évidemment, la voix de la masse doit l'entendre elle-même, comme une espèce d'écho.
Et aussi un endroit où on se défoule.
Bien sûr, le stade est le lieu vis-à-vis duquel les politiques se sont beaucoup inquiétés, puisque on le sait depuis des années et des années, vous avez ce qu'on appelle les hooligans, mais qui sont pour moi plutôt les supporters en fait, qui deviennent rapidement hooligans, mais qui sont au départ des supporters, c'est-à-dire des gens qui...
Ah, vous pensez qu'un supporter devient nous
je pense que c'est vraiment la même chose. Ce sont des gens qui connaissent bien le football, qui aiment le football, ce sont pas des gens marginaux par rapport au football. Non, ce sont les vrais supporters, ce sont des hooligans, malheureusement. Et bien c'est là où vous voyez effectivement le déversement en quelque sorte, vous voyez, de toute la violence qui peut y avoir à travers évidemment la voix elle-même, mais aussi les comportements tout à fait inouïs de ces individus. Jusqu'à des comportements parfois tout à fait inquiétants. On présente par exemple, vous voyez, des tombeaux, pour représenter l'équipe adverse. C'est-à-dire qu'on vous dit que l'équipe adverse va mourir et on lui présente symboliquement, vous voyez, ça se passe par exemple en Italie comme ça. Il y a évidemment beaucoup de chants qui sont contre l'équipe adverse. Et puis il y a surtout ce que l'on peut voir même en France, entre des équipes, par exemple, quand vous assistez à un match entre Marseille et Paris Saint-Germain, et bien vous avez là le hurlement, alors pas simplement d'une petite fraction du stade, mais de tout le stade, où vous entendez des enculés pendant une heure et demie.
Sept jours en Afrique.
Nous allons effectivement continuer notre émission et partir pour l'Afrique maintenant, et d'abord revenir sur la décision Marc Perelman prise jeudi par la Cour pénale internationale de juger l'ancien président Laurent Gbagbo, Olivier Roger.
Souvent accusé en Afrique de partialité, d'instaurer une justice des vainqueurs et d'être soumise aux grandes puissances, la Cour pénale internationale n'a pas le droit à l'erreur. Dans l'affaire Gbagbo, les faiblesses initiales du bureau du procureur ont été révélées au grand jour il y a un an, lorsque la chambre préliminaire a demandé à Fatou Bensouda de revoir sa copie. Paradoxalement, c'est la CPI elle-même qui pointait les insuffisances de la CPI. Un exercice qui a d'abord terni la réputation du bureau du procureur, mais qui fut au final un exercice de transparence salutaire pour des magistrats qui n'ont que leur professionnalisme à opposer aux critiques. Demain, le procès de Laurent Gbagbo se devra d'être exemplaire si la CPI tient à conserver sa crédibilité. À La Haye, nul ne l'ignore et nul n'ignore non plus que l'exemplarité ne se limite pas au seul cas Gbagbo, tant que les auteurs de violences graves commises par l'autre camp ne seront pas inquiétés. La CPI n'aura jamais totalement, aux yeux d'une partie du public africain, une réputation de neutralité. Si les juges de La Haye se défendent de toute politisation, ils traitent une matière éminemment politique et ne peuvent donc en ignorer les répercussions.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, en Guinée cette fois, où l'ancien président de la transition, le général Sékouba Konaté, affirme avoir déposé à la Cour pénale internationale, justement, une liste de commanditaires du massacre du stade de Conakry le 28 septembre 2009. Une décision qui intrigue et inquiète certains à Conakry, correspondance hier de Mokhtarb.
La fièvre s'est emparée de tous ceux qui, civils, ministres d'alors et militaires, officiers supérieurs de l'armée, à un moment ou à un autre, étaient autour du chef de l'ex-junte d'Addis Camara au camp Alfaya Diallo le jour du massacre. Sékouba Konaté, lui, n'a fait qu'apporter sa contribution à la CPI pour la manifestation de la vérité qui tarde à voir le jour bientôt 5 ans après les tueries, dit un de ses proches. Ici, on ignore encore le nombre de personnes civiles et militaires présumées coupables et figurant sur cette liste fatidique, ni le rang social de nos jours, même si au moins 10 hauts responsables d'alors ont été inculpés par la justice guinéenne. Aujourd'hui, la question qui circule sur toutes les lèvres en Guinée, c'est de savoir pourquoi ces révélations maintenant. Lui, Konaté, répond, je cite, « C'est un devoir de mémoire. » Pour avoir présidé pendant une année aux destinées de la Guinée, le général Konaté promet dans un proche avenir de faire d'autres révélations sur le déroulement de la transition.
Suite d'une semaine d'actualité, partons en RDC maintenant, à noter un retour des tensions. Il y a eu en effet ces derniers jours des tirs à la frontière entre ce pays et le Rwanda. À souligner d'autre part une nouvelle qui va en réjouir plus d'un, l'abandon de la prospection pétrolière dans le fameux parc des Virunga. Correspondance mardi de Léa Lisa Versterhoff.
Il aura fallu 10 mois de campagne médiatique et une plainte pour que l'entreprise britannique Soco recule. Le pétrolier va terminer ses tests sismiques d'ici 30 jours dans le parc des Virunga, mais ensuite, il n'y aura pas de nouvelle phase d'exploration ou de forage. Le pétrolier jette l'éponge. Pour le Fonds mondial de protection de la nature, qui avait porté plainte devant l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est une victoire. Ces derniers mois, le projet d'exploration pétrolière dans le parc naturel le plus ancien d'Afrique s'était transformé en casse-tête. La Grande-Bretagne d'abord s'était opposée au projet à plusieurs reprises, mais aussi le Parlement belge, le Parlement allemand et au final le commissaire européen au développement. Enfin, il y a eu une petite levée de boucliers de la société civile en République démocratique du Congo et puis cette attaque sur le directeur du parc des Virunga lui-même. L'entreprise britannique a toujours démenti toute implication, mais les opposants au projet pétrolier ont alors eu une couverture médiatique sans précédent. Au final, échec et mat, Soko s'engage à plus de transparence et une meilleure consultation des communautés locales pour ses activités exploratoires futures. Le pétrolier promet également de ne mener aucune activité sur d'autres sites classés au patrimoine mondial de l'humanité.
RFI. Et avec vous, Julia Guilaine, d'autres informations africaines de ces derniers jours?
Oui, dans l'actualité, cette semaine au Nigeria, entre 20 et 40 femmes ont été kidnappées il y a tout juste une semaine dans le nord-est du pays. L'enlèvement a été perpétré par des hommes soupçonnés d'appartenir à Boko Haram. Ils s'en sont pris à un campement de nomades peuls, une ethnie majoritairement musulmane. En Tunisie, le lancement en début de semaine de l'instance Vérité et Dignité devrait permettre de tracer la voie vers une possible réconciliation nationale. Cette instance devrait faire le point sur les crimes des deux précédents régimes de Bourguiba et Ben Ali et dédommager les victimes. Au Burundi, un code de conduite pour les élections de 2015 a été signé cette semaine par le gouvernement, les partis et les acteurs politiques du pays. Son objectif, que les élections à venir soient libres, apaisées et inclusives dans un contexte de vives tensions politiques. Et enfin, au Mali, après le constat de fuites et de fraudes lors des examens pour l'obtention du DEF, le diplôme d'études fondamentales, ce sont à présent les épreuves du baccalauréat qui se déroulent dans des conditions critiquables. Les examens ont débuté en retard, tandis que les accusations de fraudes et de fuites s'accumulent. À suivre dans nos journaux.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, vous la connaissez par cœur. N'hésitez pas à continuer à nous écrire, cela nous intéresse et nous fait toujours plaisir. Un bonjour aujourd'hui à Alpha Oumar Diallo. Il salue tous les fidèles auditeurs et toutes les fidèles auditrices de RFI, de la RFI, dit-il. J'ai été très navré d'apprendre le retour de l'épidémie Ebola en Guinée-Conakry, écrit-il. J'invite les autorités sanitaires à prendre leurs précautions pour éviter la propagation du virus sur toute l'étendue du territoire. Un salut aussi à Mamadou Ndramé à Thiès, à Alpharouk Abdoulaye Barka à Djamena. Suite d'une semaine d'actualité, et avant de vous retrouver, Marc Perelman, repartons au Brésil et reparlons de la Coupe du Monde avec un retour sur la victoire déjà très contestée du Brésil avec l'aide de l'arbitre en quelque sorte sur la Croatie 3-1 à Rio jeudi. François Cardona.
Couverte d'une marée humaine verte et jaune, la plage de Copacabana a vibré pendant les 90 minutes de jeu jusqu'à la victoire. Le soulagement pour Zezinho et ses amis, entièrement habillés de vert et jaune eux aussi, mais pas vraiment convaincus par la prestation de la Seleção.
Ça commence doucement, on va voir comment la suite va se passer jusqu'à la finale. Bien sûr, on espère que tout va bien se passer pour que tous les Brésiliens puissent faire la fête, que tout le monde soit heureux. Le Brésil, j'espère bien qu'il va gagner la finale.
Juste avant la mi-temps, près d'un millier de manifestants ont décidé de venir perturber le grand spectacle. Criant des slogans anti-Coupe du Monde et anti-FIFA, ils ont défilé dans Copacabana pour protester contre le coup de ce mondial. La manifestation pour autant était loin d'être massive. Déception parmi les protestataires dont Bettina, une étudiante de 26 ans.
Les gens viennent, manifestent et puis s'en vont et tout le monde oublie dans quelle situation on est. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, il fallait au moins qu'on soit là pour nous faire entendre. Mais si on ne continue pas, tout ça ne donnera rien.
Plusieurs centaines de policiers militaires ont rapidement été déployés dans le quartier de Copacabana et jusque tard dans la nuit, les supporters ont pu profiter de la fête. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Marc Perelman, donc auteur du Sport Barbare, critique d'un fléau mondial aux éditions Michalon. Vous n'êtes pas tout à fait dans la tonalité des fêtards de Copacabana à Rio qui fêtait la victoire du Brésil. Vous écrivez, Marc Perelman, on n'assiste pas seulement à la médiatisation exacerbée du sport, mais la médiatisation est aujourd'hui mise en œuvre par le sport. Le média est sportif.
Oui, je pense qu'on a passé, disons, un cap. Bah, qui est celui-ci, c'est-à-dire que le sport était avant médiatisé, hein, au sens où, on disposait de caméras, de radios, pour tout simplement retransmettre, comme on dit, l'événement sportif. Aujourd'hui, je pense qu'on en est passé à une échelle différente. Hein, c'est-à-dire que je pense aujourd'hui, évidemment, le nombre de caméras a largement augmenté dans les stades. Quand vous regardez les dispositifs qui sont mis en place, c'est tout à fait impressionnant. Hein, vous avez des caméras partout. Y compris dans les vestiaires, y compris dans le ciel aujourd'hui, pour d'une certaine façon présenter l'événement sportif à vol d'oiseau et jusque dans le sous-sol même du stade. Et donc là, vous voyez, il y a une espèce de pénétration visuelle et sonore tout à fait étonnante. De ce point de vue-là, je pense qu'on a franchi une étape, d'une certaine façon, dans le sens où ce n'est plus tant la médiatisation du sport qui me semble pertinente à analyser, mais plutôt la transformation, vous voyez, de cette médiatisation du sport, tout simplement en ce que le sport devienne lui-même un média. Hein, c'est-à-dire que le sport devient lui-même à la fois récepteur, d'une certaine façon, et projecteur. Hein, et c'est ça qui me semble tout à fait important. Et c'est important parce que le sport est ce qui, évidemment, attire les individus dans les stades. On le voit par exemple au Brésil, vous avez des stades qui seront sans doute relativement bien remplis, mais c'est pas vraiment ça qui intéresse.
À condition que les Brésiliens puissent voir les matchs.
Tout à fait. Mais c'est pas tellement ça qui intéresse finalement ceux qui passent des contrats avec les grandes chaînes de télévision. C'est pas tant la billetterie qui représente finalement relativement peu de choses, 10% à peu près des revenus. Ce qui est important, évidemment, c'est surtout la façon dont la télévision, vous voyez, va pouvoir retransmettre
les droits de retransmission télévisée, qui sont absolument gigantesques,
et c'est ça qui est tout à fait, nouveau d'une certaine façon. Et là, je pense qu'il y a un vrai changement, vous voyez, non seulement quantitatif, le nombre de caméras, etc., la technologie qui est mise en œuvre, mais aussi qualitatif. C'est-à-dire que c'est vraiment le sport qui, tout d'un coup, s'immisce véritablement, vous voyez, dans l'ensemble des foyers des individus. Donc, c'est pas tant, si vous voulez, le sport dans le stade que le sport que le stade retransmet dans les foyers, dans les appartements de chacun d'entre nous. Et c'est donc le sport à la télévision, ou le sport chez soi, plus précisément. Comment le sport, voyez, est devenu aujourd'hui un élément, en quelque sorte, de notre vision quotidienne, de notre vie quotidienne, puisque nous sommes, scotchés devant au moment des compétitions. Donc là, il y a quelque chose, voyez, qui me semble assez nouveau et d'une certaine façon assez inquiétant, parce que c'est une espèce d'ordre c'est vrai, assez invisible. On vous tape pas dessus pour regarder, hein. Mais voilà, par addiction, hein, selon des ressorts, disons, de fascination qu'il faudrait analyser de façon un peu plus précise, eh bien, vous avez près de 3 milliards d'individus, c'est-à-dire la moitié de la population qui se trouve devant son poste.
Et c'est vrai qu'il faut comparer la retransmission d'un match dans les années 70 ou même 80 pour ne pas remonter au calendrier grec et la retransmission des matchs aujourd'hui pour voir que là, on a affaire désormais à un spectacle et non plus à un match de football.
Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle le sport spectacle, qui est d'ailleurs un terme qui a été inventé par Léo Lagrange. Vous voyez, donc ça date pas d'aujourd'hui, c'est les années 30. Hein, c'est Léo Lagrange qui invente ce terme-là pour le dénoncer d'ailleurs, hein, le sport spectacle. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, le sport n'est que spectacle ou n'est que spectaculaire, hein, où il n'y a de possibilité de sport, si vous voulez, qu'à travers son spectacle ou sa spectacularisation.
Et là aussi, on en avait parlé avec Robert Adecker. Je crois que vous le connaissez, que vous partagez les points de vue, ce qui oblige le sportif à franchir des limites toujours plus grandes et à se doper parfois et à dépasser le stade d'humain, finalement.
Tout à fait. Là, on voit que la médiatisation a obligé aussi à la transformation, y compris du sport. Hein. On voit certains sports transformer les techniques au tennis, au football, etc. Et aussi dans l'athlétisme. On ne supporterait pas aujourd'hui un coureur qui court le 100 mètres en 10 secondes 5. Il faut un coureur qui court en 9 secondes 50 comme Usain Bolt. Et bientôt, on applaudira des coureurs qui courront en marche arrière parce que on ne supporte pas
les voir courir. C'est plus original.
Voilà.
Merci Marc Perret. Si, je vous l'assure, vous pouvez à la fois en ce moment lire l'équipe chaque jour, faire la publicité gratuite et lire aussi le livre de Marc Perelman, Le sport barbare, critique d'un fléau mondial, un livre passionnant qui ouvre des perspectives et qui voit le sport évidemment d'une autre façon, un livre publié chez Michalon. Merci. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Sophie Janin. Je vous retrouve donc demain pour le magazine Idée. Nous parlerons football encore, Coupe du Monde, en compagnie donc d'Adrien Bosque de la revue Des Sports, qui mêle sport et littérature, comme vous d'ailleurs. Je crois que vous avez écrit un livre sur le sport et la littérature. Demain dimanche, 17h10, Idée, avant le premier match de l'équipe de France dans la compétition. Vous le constaterez, entre Idée et une semaine d'actualité, tous les points de vue sont respectés. Bonne fin de semaine, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.